Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bien, nous allons quitter les rives de la Dordogne et de la Vézère pour les limites du Limousin et du Périgord. Et ceci avec un ouvrage des frères Jérôme et Jean Tarot qui s'intitule La maîtresse servante. Voilà, donc Jean et Jérôme Tarot, bien, sont des voisins limousins, comme je le disais. Jérôme est né à Saint-Junien, donc pas très loin de chez nous, en 1874. Jean est né également à Saint-Junien en 1877. Alors, inséparables, ils ont travaillé à quatre mains pendant 50 ans. Jérôme fait des études à Angoulême, puis à Paris. Reçu au concours de l'école normale supérieure, il est affecté en qualité de lecteur à l'université de Budapest, qu'il quitta rapidement pour rentrer en France et devint de 1901 à la déclaration de la Première Guerre mondiale secrétaire de Maurice Barrès, alors suppléé de temps en temps par son frère. Alors son frère, justement, Jean, sera moins chanceux dans ses études. Il échoua au concours de Saint-Cyr et de l'inspection des finances. Puis venu à Paris, se dirigea vers la littérature, débutant avec son frère une carrière d'écrivain inséparable. Alors Jérôme sera élu à l'Académie française en 1938 et Jean en 1946. Un grand voyageur, il parcourt de nombreux pays dont il ramènera de nombreux sujets de reportages et d'ouvrages dont on retiendra la suite marocaine. Jean, c'était à Paris en 1952 et Jérôme à Varengeville-sur-Mer, c'est-à-dire en Normandie, en 1953. Alors, parmi leurs œuvres, citons Le coltineur des billes, 1898, Denglet, L'illustre écrivain, 1902, Prix Goncourt, 1906, La tragédie de Ravaillac, 1913, Marrakech ou Les seigneurs de la tasse, 1920, La randonnée Samba-Diouf, 1922, La nuit de fesses, 1932, Le rayon vert, 1939, Les enfants perdus, 1948, et La double confidence, en 1951. Et puis bien sûr, l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui, La maîtresse servante, qui est édité en 1911 par Émile Paul, qui était à l'époque à Place Beauvau à Paris. Alors, ce livre, l'action se déroule en Limousin, au Prado. Alors, un Prado est en Occitan, c'est un petit pré. Hein. En Limousin, au Prado, domaine qui est à une portée d'arquebuse, ou deux portées d'arquebuse, du département de la Dordogne, et proche de Nontron, la ville qu'on va retrouver citée à plusieurs exemples, et ainsi que Jumiac le Grand, le narrateur qui a passé une jeunesse insouciante à la campagne et suivi des études secondaires, part pour Paris étudier le droit, comme cela se faisait à l'époque. C'est-à-dire, l'action se passe fin du 19e siècle et début du 20e. Alors, chez des amis, il rencontre Mariette, dont il tombe amoureux et qui devient sa maîtresse. De retour en Limousin, il lui demande de venir le rejoindre, ce qui n'est pas du goût de sa mère bien pensante qui décide de le marier. Pauvre Mariette, elle va avoir quand même quelques petits problèmes, mais ça s'arrangera. Cet ouvrage qui est dédié à André Daly. Alors, Daly était polygraphe, administrateur de la Monnaie de Paris, auteur dramatique et correspondant de nombreuses revues. Il était l'ami des frères Tarot. Alors, un court préambule nous le présente. Alors, voici, donc, c'est dédié à André Daly. Où vous cherchez, où vous trouvez, cher ami, au bord de l'Oum, Erdia, au pied de la Grande Muraille, sous la tente au blanc qui flotte, où flotte le fagnon vert, au milieu des camps et des armes, dans ce bureau, dont il vous plaît de ne point dédaigner les paperasses, et que vous animez de votre activité méthodique, à votre piano, ou bien parmi les livres où l'auteur de Bacchus cherche des évocations étranges, des rapprochements inattendus, des syncrétismes hardis. Sur ce canapé, vous sembliez dormir et vous, soudain d'un mot, vous expliquiez, vous dénouiez la psychologie obscure, la situation impossible. Tous ces êtres, toutes ces formes diverses que vous revêtez tôt à tôt, nous charment et nous attirent, mais l'ami nous retient et c'est à lui que nous dédions ce récit véridique. Alors ce récit véridique, il va être en quelque sorte le confident du narrateur. Alors, voici la première partie un peu rocambolesque de ce roman. J'imagine aisément, monsieur, combien tout cela vous choque. Ça vous choquerait encore plus si vous saviez que ma famille, si sévère sur les principes, si attachée aux bienséances, était encore endolorie d'un scandale à peu près pareil à celui que je méditais. On allait voir revivre à moi un certain oncle Frédéric, comme avait toute ma jeunesse montré comme un épouvantail. C'est un rastignac de campagne. Il était taciturne, soigné de sa personne et de manière polie. L'hiver, il passait au lit la plus grande partie de la journée à fumer des cigarettes ou tremper des biscuits dans un verre de Malaga. Elle ne pouvait lui faire quitter la chambre, mais s'il naissait un veau dans l'étable, on le lui portait sur son lit. L'été, on le rencontrait dans une voiture d'osier traînée par deux petits poneys à peine plus hauts que de gros chiens qu'il avait achetés lors d'un voyage à Paris au jardin d'acclimatation. Il entretenait à Nontron une femme qu'il avait prise à Bordeaux. Il la visitait à jour fixe et si longtemps qu'il restait chez elle, la petite voiture d'osier l'attendait devant la porte. Oui, chez cette femme, après 8 jours de maladie, personne de parmi nos parents n'avait voulu aller l'y voir. Mon père réclama son cadavre, la vieille maîtresse déclara qu'elle était seule à l'avoir soignée, qu'elle lui avait fermé les yeux et qu'elle refusait de le rendre. Et moi, fut grand dans ma famille, il fallait revoir mon oncle afin d'éviter le scandale de voir son convoi funèbre partir de chez sa maîtresse. Avec un autre de ses frères, mon père se rendit à Nontron. Il était tout à fait nuit quand ils arrêtèrent leur voiture dans le faubourg de la ville. Ils gagnèrent à pied la maison où l'oncle Frédéric était mort, pénétrèrent à pas de loup par la porte du jardin qui était restée ouverte et montèrent sans faire de bruit jusqu'à la chambre où se trouvait le défunt. Les trois femmes qui le veillaient en somnolant dans des fauteuils pensèrent mourir de frayeur quand elles les virent surgir tout à coup. Mon père glissa dans un sac le corps du pauvre Frédéric. Son frère le chargea sur ses épaules et tous deux s'empressèrent de déguerpir tandis que la maritone revenue de sa surprise criait derrière eux « Au voleur, au voleur !» Interment plus convenable, le nom de la famille était sauf et le nom de Frédéric restait un objet d'abomination chez nous. Moi seul, j'admirais comme un niais d'avoir bravé l'opinion. Voilà. Alors, bien sûr, on va déléguer un médecin de la famille qui est envoyé en ambassade à Paris, où il poursuit ses études, le jeune homme, mais sans résultat. Alors, voici ce qu'il nous dit. Un beau matin, je vais arriver, donc le médecin de famille débarquait dans ses atours de coq du village, vert encore malgré son âge. Il passait entre Rochechouart et Nontron pour quelqu'un qui avait beaucoup vécu. Ben alors, là, comment je pourrais dire, bien sûr, l'ambassade ne se fera rien, mais le Périgord, comme je disais tout à l'heure, et bien sûr, n'est pas loin. Le lendemain, donc il revient à Limousin, le lendemain, sitôt levé, je me rendis à la maison qu'avait habité l'intendant. On y accède par un bois châtaignier qui sert de parc au Prado. La maison est sur la lisière, un quart d'heure de marche environ, dans une position pittoresque où l'on domine la vallée assez resserrée à cet endroit, mais qui va s'élargissant peu à peu et laisse apercevoir au loin le Périgord, moins vert et plus ensoleillé que notre Limousin. Voilà, donc voilà, le Périgord, comme je disais, c'est à peu près de portée d'arquebuse du Prado. Alors, il y a une tente de Jumiac-le-Grand qui est mise à contribution pour le marié, pour lui trouver un bon parti. Alors, il s'agissait je m'en souviens de cette tente de Jumiac qui m'arrachait autrefois Jenny Grandet dans les mains. Je l'avais toujours détestée, je ne pouvais souffrir en elle une façon de tout rapporter à la religion et à la morale, que d'ailleurs, elle ne séparait pas. Habitude de hausser à une dignité supérieure tout ce qui se rétractait, rattaché à elle jusqu'aux chiens, aux chevaux de sa maison, qu'elle préférait à ses domestiques parce qu'ils étaient plus esclaves. La vanité de paraître brillante, même dans une église de village, et un goût de l'importance qui faisait le contraste le plus irritant avec la simplicité de sentiments qu'elle affectait. La manie d'affirmer à tout moment qu'elle était incapable d'admettre que les gens fussent ou méchants, ou menteurs, ou débouchés, et pourtant l'esprit le plus soupçonneux, le plus méfiant, le plus inquiet, l'oreille la plus attentive à surprendre les propos les plus innocents, la pensée la plus encline à interpréter une phrase entendue à demi. Un geste surpris à la dérobée, bref, une de ces âmes demeurées en dehors du siècle, puissamment établie dans un petit nombre de principes chez qui une insupportable assurance n'a lieu de réflexion, d'expérience et de bonté. Je dois vous dire aussi, monsieur, que nous étions auprès d'elle dans une situation assez humble, son mariage l'ayant fait entrer dans la famille des Jumillac, la plus illustre famille de notre petit pays. Durant 3 ou 4 siècles, les Jumillac représentaient près du roi notre pauvre noblesse rustique, qu'on ne rencontrait guère à la cour, et qui serait-elle allée faire? Elle se distinguait à peine du reste de nos paysans. Témoin ce gentilhomme de chez nous qu'on vit paraître aux états de la noblesse un échalas de vigne croisé d'un morceau de bois en guise d'épée de côté. Et cela me remet dans la mémoire l'histoire de ces trois gentilhommes de Sarlande. Alors Sarlande est une commune limitrophe du Limousin, en Dordogne, hein, si pauvre qu'elle n'avait qu'une épée pour tous les trois. Comme ils ne voulaient paraître à l'église qu'avec cet insigne de leur ordre, chacun venait à la messe une fois tous les trois dimanches. Le curé appelait la bénédiction du ciel sur le roi et sur les principes, et puis sur les trois gentilshommes, et il demandait à Dieu de les maintenir dans la pauvreté, car de leur pauvreté dépendait la tranquillité de la paroisse. Il n'y a pas longtemps encore, tout au bureau de chez nous, qui se rendait à Paris, descendait rue de Varennes, à l'hôtel des Jumillac. Il logeait comme à l'auberge, sans être autrement invité, ni qu'il en coûtât autre chose qu'une visite au marquis. Ça ne se fait plus aujourd'hui, le vieux marquis de Jumillac était un jour plein à mon père qu'avec un peu d'amertume, que lors d'un séjour à Paris ne fut plus allé l'y voir et qu'il y a seulement 20 ans ne serait point arrivé. Mon père répartit tout de go, c'est qu'il y a 20 ans, marquis, je serais évidemment descendu chez toi. Voilà, alors on va continuer un peu cette lecture. Voilà ce qu'il nous dit, cette frontière indécise où le Limousin se fait moins âpre que le Périgord plus sauvage. On a toujours vu foisonner une petite noblesse terrienne, gourmande, besogneuse et farode. Quand elle donne sa fleur, elle produit les Mortemarres, les Noailles ou les Saint-Chamans. Quand elle demeure à l'état fruste, elle continue les Pourceaugnac. Voilà, alors on va retrouver un personnage dont on ne passerait pas, c'est Brantôme. Voilà donc, dans un chapitre, « Mon Dieu, que ce temps est loin, comme cette haute lande me semble triste aujourd'hui. » Le château bâti par Brantôme sur le modèle de celui de Lady Richmond qu'il aimait dresse toujours au-dessus d'un jardin campagnard ses murs à un étage et son haut toit rouillé. S'il monte quelquefois, j'entre dans le fameux vestibule, j'y trouve, si on est en été, deux vieilles dames qui travaillent dans cet endroit toujours frais. L'une est la jeune épousée que nos chiens et nos fanfares avaient un matin réveillée. Notre amie est morte. Elle est veuve. Une parente est venue partager sa solitude et les deux vieilles dames, sur cette haute lande perdue, font de tapisserie et brodent des ornements d'église au-dessus même de la crypte où est enterré Brantôme. Alors, la maison mortuaire de Brantôme, bien sûr, se visite. Voilà, alors on va... comment je peux dire, bien sûr, on a décidé de marier ce jeune homme. Alors voici ma tante de Jumillac, mon frère de rencontrer chez elle, ce parti exceptionnel auquel on avait pensé pour moi. J'hésitais encore à m'y rendre car je répugnais à accepter cette sorte d'absolution que me donnait par là ma famille. Je m'y résolus enfin qu'avec ma facilité de m'illusionner sur moi-même, je finis par me convaincre que je n'allais à Jumillac avec le ferme propos de bien montrer à ma tante que j'étais toujours le même et contrecarrer ses projets. Voilà. Alors, Jumillac, je crois que j'ai encore une minute, Jumillac n'a pas l'aspect ordinaire de nos petites gentilhommières. C'est une puissante bâtisse construite par les Templiers dans un agreste paysage de prés, de bois, de ruisseaux. À la voir se profiler sur le ciel, tout hérissé de créneaux, de tours et de poivrières, l'imagination reste saisie. Que de romans, que d'histoires ont dû se dérouler. On y rêve de tragédies, de drames à la Walter Scott, et j'ai eu la curiosité de consulter les archives, et j'ai constaté que jamais rien ne s'y était arrivé. Tout le passé de cette énorme demeure tient pour moi dans un détail qui ne s'accorde pourtant guère avec sa mine rébarbative. On voit au premier étage une courtine de pierre ébréchée, et maintenant en droit, c'est là, paraît-il, le chemin que les galants suivaient jadis pour se rendre chez leur belle, et passer d'une chambre à l'autre. Ce qui faisait dire qu'à Jumillac, le serein était fort dangereux et qu'il valait mieux se garder d'y lever les yeux le soir. Il y a aussi de beaux vieillards qui semblent chargés d'expérience et qui n'ont à vous raconter qu'une mince histoire d'amour. Voilà, donc on arrive à la fin. Alors, quand je veux dire, bien sûr, ma Mariette, elle va partir du Prado et elle va aller à Nontron. Alors, est-ce que quand ma mère arriva au Prado, Marielle n'y était déjà plus, sinon qu'elle avait soupçonné la raison de mon départ, mais sur son mariage. Elle s'était faite conduire à Nontron chez une sœur de ma nourrice. Voilà. Donc voilà, tout le monde va se retrouver un peu, comment je pourrais dire, un endroit. Alors, il y a un troisième chapitre. Alors ça, je vous le laisse découvrir, parce que bon, il y a la fin de cette histoire. Alors, je pense que moi, le volume que j'ai dans 2011, il y a eu quand même quelques rééditions. Et je pense que si vous m'avez demandé un libraire, vous pourrez la trouver et avoir la fin de cette histoire. Bien, moi, je vais vous donner rendez-vous bien à la semaine prochaine. Au revoir et je crois que bientôt, on va pouvoir prendre une petite laine. Voilà, au revoir.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.